OK, on va commencer notre 37e leçon dans notre série « Le péché, les 10 commandements, la grâce ». Ce matin, on va voir le calvinisme et sa conception de Dieu. Alors, le système théologique du calvinisme a une conception de Dieu qui est vraiment scripturaire, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Alors, comme le calvinisme est un système théologique fortement centré sur Dieu et exclusivement basé sur les Saintes Écritures, il s'ensuit des distinctions vitales et importantes d'avec les autres systèmes théologiques. Donc, on va regarder pourquoi c'est vital. Vital parce que les distinctions affectent la majorité, sinon la totalité, des doctrines essentielles. Vital parce que les distinctions ne sont pas seulement une question d'emphase, mais bien de contenu. Et également vital à cause du caractère organique de la théologie, le tout est cohérent et interrelié. Donc, si on fait une erreur quelque part, ça se répercute dans tout le système. Et c'est également sont importantes les distinctions, parce que les distinctions influent sur la gloire de Dieu dans ses manifestations et sa compréhension par les hommes et non sur sa gloire inhérente. Quand on dit que c'est important pour la gloire de Dieu, c'est bien entendu la manière dont les hommes perçoivent la gloire de Dieu et non pas la gloire de Dieu de façon interne. Ça, peu importe ce que les hommes font, ça ne change rien, mais dans la perspective que les hommes la perçoivent, ça peut avoir une grande influence. Ça, je dis dans ses manifestations et sa compréhension par les hommes. Importante aussi parce que les distinctions affecte même la compréhension des hommes sur la nature de Dieu et ses attributs. Alors, ça change la manière dont on voit la personne même de Dieu. Et également importante parce que les distinctions affectent même la perception par les hommes du plan de Dieu et de sa capacité à l'accomplir, donc qu'on pourrait appeler l'œuvre de Dieu. Donc, autrement dit, c'est important parce que ça affecte la perception de la gloire de Dieu, de la personne de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Donc, le calvinisme a donc une influence considérable sur notre compréhension de Dieu et sur toutes les conséquences théoriques et pratiques qui en découlent. Donc, tout ça, ça a l'air bien théorique, là, mais quand tu tombes dans la réalité, ta manière de voir Dieu va influencer ton comportement, etc. Alors, le premier point qu'on va regarder, le calvinisme enseigne que Dieu est parfait. Donc, parfait en sagesse. On regarde Romains chapitre 16, verset 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Alors, bien entendu, on peut voir des hommes qui ont de la sagesse, mais la Bible dit que seul Dieu est vraiment parfaitement sage. Psaume 104, verset 24. « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. » On a également Éphésiens, chapitre 3, verset 10. « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Alors, c'est quelque chose, quand on pense à ça, est variée, mais de façon infinie. On a peine à imaginer qu'est-ce que ça veut dire, la sagesse infiniment variée de Dieu. Romains 11, 33, 36. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. » Il y a deux choses qui sont mentionnées concernant la sagesse de Dieu dans ce passage-là. Le fait que les décrets, parce que les jugements dans le contexte, ça veut dire les décrets de Dieu, donc ce qu'il a décidé qui était pour se dérouler dans l'espace et dans le temps, sont à la fois deux choses. Insondables. Donc, comment tu essaieras de comprendre? Et incompréhensible, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre là-dedans, mais ça veut dire que tu ne te rendras jamais au bout de la compréhension de pourquoi Dieu a fait les choses de telle ou telle façon. Alors, dans ces quelques versets, nous apprenons que Dieu a choisi la fin de toute chose, qu'il a aussi choisi les moyens par lesquels toutes choses arrivent, et tout ceci dans une conception parfaite, donc absolument sans erreur. Donc Dieu est parfait en sagesse, mais aussi Dieu est parfait en immuabilité. Donc le fait que Dieu, quand les choses sont décidées, sont parfaites, donc ils ne peuvent pas changer. Psaume 33, verset 11. « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Ésaïe, chapitre 46, verset 10 et 11. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'a pas encore été accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Malachie chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Jacques 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pour le Seigneur, il y a incapacité de changement, tant dans sa nature que dans ses desseins. » Dieu est aussi parfait en puissance. Éphésiens 1, verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. » Ésaïe 14, verset 24, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. » Après que le plan parfait ait été conçu, sa réalisation est absolument certaine. Dieu est aussi parfait en connaissance, acte 15, verset 17 à 18, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Donc, la préconnaissance implique la certitude et la certitude implique la prédestination. Alors, on vient de regarder le point de calvinisme enseigne que Dieu est parfait. Le deuxième point, on va regarder le calvinisme enseigne que Dieu a un plan parfait. Alors, si on regarde les grands systèmes de théologie, bien entendu, il n'y en a plus que trois, mais on peut dire au moins les trois plus grands, les systèmes théologiques, leur façon de comprendre le plan de Dieu. Si on regarde le système pélagien, qui dit essentiellement « Dieu n'a pas de plan ». Le système arminien dit essentiellement « Dieu a un plan général, mais pas de plan spécifique ». Tandis que le système calviniste dit essentiellement « Dieu a un plan spécifique qui inclut tous les événements de tous les temps ». Alors, les prérequis d'un plan parfait, quand on regarde, on dit que le calvinisme enseigne un plan parfait, mais qu'est-ce que ça prend pour qu'un plan soit parfait? Pour qu'un plan soit parfait, la première chose, il faut que sa fin ultime soit la gloire de Dieu. Autre chose, sa portée, il faut un plan qui comprend absolument toutes choses de toutes les époques. Imaginez-vous d'essayer de faire un plan qui comprend tous les événements de toutes les époques, de tous les hommes, de tous les gouvernements. À quelque part, là, c'est absolument ahurissant. Alors, c'est un plan qui comprend toutes choses à tous les temps. Donc, la portée du plan parfait, c'est ça comprend absolument toutes choses, y compris ce qu'on est en train de faire ce matin. Sa durée éternelle, sa solidité immuable, sa qualité absolument sage et sans erreur. Quand on regarde ce que les hommes font, en général, peu importe ce que les hommes font, il y a toujours des oublis, des erreurs, tandis que le plan de Dieu est parfait dans ses moindres petits détails. Alors, sa liberté aussi, on a besoin de comprendre que Dieu agit toujours avec un dessein, donc une intention. Il est au-dessus de toute influence Et son plan n'est en aucun cas conditionnel. Et sa réalisation, il s'accomplira dans les moindres détails. Alors, essayer de construire un plan parfait qui comprend tous les événements de la Terre en un seul décret, ça prend une intelligence qui est extraordinaire. Maintenant, l'étendue du plan parfait sur la création. Dieu a créé l'univers, le ciel, les anges, la terre. Et dans la terre, il y a plusieurs règnes. Le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, et aussi l'homme. Donc, la création divine, on est en train justement de regarder ça dans le livre de la Genèse, a été faite selon ex nihilo, donc à partir du néant, et en six jours littéraux, donc six jours de 24 heures. Donc, l'étendue du plan parfait sur la création, ça c'est un aspect de l'œuvre de Dieu, mais on a aussi sur la providence. La providence, c'est bien simple, c'est l'ensemble de tous les événements, de toutes les époques, de tous les temps, dans la vie de tout le monde, sans exception. Donc, la providence, l'étendue du plan parfait s'étend jusque sur la providence. Donc, Dieu préserve la création et la maintient à l'existence. Néhémie, chapitre 9, verset 6, « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme, tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Colossiens, chapitre 1, verset 17, « Il est avant toute chose, alors dans le contexte, on parle de Christ, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Quand on dit souvent que Dieu maintient, Christ maintient les choses à l'existence, quand on pense par exemple aux mères, tout à l'heure on disait tout ce que les mères contiennent, quand on regarde des fois certaines émissions de télé sur la quantité de vie qu'il y a là-dedans, c'est ahurissant, comme on dit. Et c'est lui qui maintient tout ça en vie et en existence. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Et qui, encore là dans le contexte d'Hébreux 1, on parle de Christ, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, la providence dans le sens de la préservation de la création et de son maintien à l'existence. Maintenant, sur la providence dans le sens que Dieu contrôle la création de façon parfaite et absolue. On va regarder dans quel domaine? Sur l'univers matériel. Alors, tout ce qui est matériel, les astres, lui obéissent. Job 38, verset 31-33. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordes de l'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Et on pourra prendre beaucoup d'autres passages qui nous parlent que les astres même obéissent à Dieu. Les éléments, maintenant, lui obéissent. On va regarder différents éléments. Psaume 147, verset 18, le vent. Alors, ça dit, « Il envoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. » Job 38, verset 25 et 35, donc il contrôle de façon absolue les éclairs. Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Alors, Dieu contrôle la manière, quand le tonnerre tombe à quelque part, c'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui a voulu que ça soit là. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Maintenant, on a vu les éclairs, on va regarder maintenant un autre élément, la pluie. Job 38, verset 26, « Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. » Et il y a multitude de versets dans l'Ancien Testament qui nous montraient que quand le peuple de Dieu obéissait, Dieu permettait qu'il y ait les pluies d'avant et d'arrière saison, de manière à ce que ils soient bénis pour leur obéissance, mais ils pouvaient faire en sorte aussi que leur récolte soit mangée par les sauterelles, etc., etc. Alors, ils contrôlent la pluie et ils contrôlent aussi les eaux. Psaume 147, versets 17 et 18. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Donc, on pourra prendre peu importe l'élément et trouver des exemples dans les Écritures pour nous montrer que Christ et Dieu et l'Esprit, dans le fond, c'est le Dieu trinitaire, contrôle absolument tous les éléments. Maintenant, il a un contrôle aussi sur la création animale et végétale. Dans Job, chapitre 12, verset 10, ça nous dit « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Donc, tout ce qui vit, c'est plus que l'homme, c'est tout ce qui vit, tient, ça dit qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Maintenant, on voit aussi qu'il a un contrôle parfait sur les plantes. On a un exemple de ça dans Jonas, chapitre 4, verset 6. « L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. » Donc, Dieu fait croître un ricin comme ça. Les oiseaux, maintenant, dans Matthieu 6, 26, le Seigneur dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Les bêtes, dans le psaume 104, verset 21, « Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. » Les poissons, ça aussi, on pourrait prendre plusieurs exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament également. Jonas 1, 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Maintenant, on vient de voir sur le contrôle qu'il exerce sur la création animale et végétale. Maintenant, on va regarder quelques versets pour démontrer son contrôle sur les peuples. Psaume 22, versets 28 et 29. « Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. » Maintenant, autre chose, il établit les dirigeants des pays et également les détrône. Daniel, chapitre 2, versets 37 à 39. « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » On a également Daniel chapitre 4, verset 25. « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Des fois, quand on regarde la politique, on est porté à se décourager parce qu'on voit le côté humain. Mais les Écritures nous disent bien que Dieu contrôle absolument qui est à la tête des pays et qui il monte et qui il descend. Alors, c'est sous son contrôle parfait. Acte 17, aussi verset 26, nous montre que Dieu fixe les limites des territoires des hommes. Ça dit dans Acte 17, 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Alors, quand on regarde au cours de l'histoire, les frontières entre les pays ont changé de place. Et il dit ici que c'est lui qui a déterminé combien de temps les frontières dureraient pour un pays. Après ça, il serait modifié, puis il est au contrôle de tout cela. Maintenant, il est au contrôle aussi sur tous les domaines de l'existence de l'homme. Le Seigneur contrôle les circonstances de la naissance de chaque homme, de sa mort, de son statut de richesse ou d'appauvrissement, de son sommeil, de sa santé, etc. Autrement dit, il n'y a pas une circonstance dans nos vies qui n'est pas sous le parfait contrôle de Dieu. Il contrôle même ce que nous, on appelle hasard. Le proverbe chapitre 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Jonas, chapitre 1, verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez, et tirons au sort pour savoir qui attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors le Seigneur contrôlait ça pour démontrer que c'était Jonas qui était le responsable. Maintenant, une chose qui est un petit peu plus contestée par certains théologiens sur les actes de péché, mais sans qu'il en soit responsable. Genèse, chapitre 50, verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal. » Alors, dans le contexte, c'est Joseph. « Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc, le péché avait été permis dans un but précis, sauver le peuple d'Israël. Mais la personne qui a fait le péché, elle ne faisait pas avec l'intention de sauver le peuple d'Israël. Elle ne s'en rendait pas compte, mais Dieu utilisait son péché pour amener la réalisation de quelque chose que lui avait décidé. Maintenant, non seulement il contrôle absolument les peuples, mais il contrôle également toutes les créatures. Donc les anges, bons et mauvais, et Satan également. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22, « Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Donc, quand on parle d'anges, d'autorités et de puissances, on parle des anges. Ils ont été soumis. Donc, ça dit que tout ce monde-là est soumis au Seigneur. Donc, on a regardé différentes grandes divisions. On a regardé sur la création, on a regardé sur la providence avec ses différentes facettes. Maintenant, on regarde sur l'élection. Ça aussi, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ça, mais cependant, c'est bien ce que les Écritures nous enseignent. Donc, sur l'élection, Dieu a choisi les êtres humains qui devaient être prédestinés à la vie éternelle, qui sont prédestinés à la vie éternelle. Éphésiens 1, verset 4, verset 9, verset 11. Dans le verset 4, ça dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Dans le verset 9, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Et dans le verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. » Donc, non seulement Dieu a choisi les êtres humains qui seraient prédestinés à la vie éternelle, mais il a aussi préordonné les moyens. Donc, la manière dont quelqu'un vient au Seigneur, c'est aussi, faisait partie des plans de Dieu. Alors, on a juste à réfléchir à la manière qu'on a reçu l'Évangile et Dieu avait choisi pour une personne en particulier, ça pourrait être ce moyen-là. Un, ça peut être un sermon dans une église. Un, ça peut être un traité. Un, ça peut être un ami qui témoigne. Il y a plein de moyens, là. Mais le Seigneur, il dit qu'il a préordonné les moyens. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, « Et qui sont élus, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Maintenant, on va regarder aussi que un autre aspect de l'élection, c'est les élus sont précisément et immuablement désignés. Je me souviens que j'avais donné un traité à une personne sur la rue à Québec. Il l'avait lu, puis la semaine suivante, il était revenu me voir et il dit « Ton affaire, là, que tu dis que tous les hommes sont prédestinés de façon immuable et précise, je ne suis pas d'accord avec ça. » Tu peux pas être d'accord, mais ça ne change rien au verset. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Alors, ici, il parle du double sceau de Dieu. Il connaît ce qu'il y a, mais la façon dont les hommes peuvent reconnaître que la personne a véritablement reçu la grâce de Dieu, c'est par le fait qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, Jean, chapitre 13, verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Et le troisième point qu'on va regarder, c'est le calvinisme enseigne que Dieu accomplit parfaitement son plan. L'étendue de son accomplissement, psaume 103, verset 19, donc les Écritures nous enseignent que c'est sur toute chose. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Daniel 4, versets 34 et 35. « Après le temps marqué, moi, Nébuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Alors, l'étendue de son accomplissement, c'est vraiment sur toute chose, parce qu'on parle de domination éternelle. La certitude maintenant de son accomplissement, Ésaïe 14, versets 24 à 27, l'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main tendue sur toutes les nations. » L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Alors, j'ai mis quelques applications. J'ai mis deux. La première, le calvinisme nous donne une conception adéquate et vraie de la nature de Dieu, donc sa personne, et de l'œuvre de Dieu, son plan éternel sur la création, la providence et l'élection. Et nous avons également la certitude de l'accomplissement de tout cela. Deuxième application, le calvinisme nous apporte une multitude de bénéfices, une vision exaltée de notre Dieu. Deuxième bénéfice, une foi stimulée par l'acceptation de la parole comme des enfants. Troisièmement, une préparation à accepter d'autres vérités profondes. Quand on est capable d'accepter la doctrine du décret, on est capable d'accepter la doctrine de l'élection, on est préparé pour beaucoup d'autres doctrines qui sont un peu difficiles des fois à saisir. Quatrième bénéfice, ça nous conduit à prêcher tout le conseil de Dieu. Et cinquième bénéfice, ça constitue une formidable barrière contre les effets néfastes du modernisme. Alors, juste le fait qu'on on adhère à une confession de foi, qu'on est fidèle, ça nous protège contre une multitude de choses autour de nous qui sont véritablement extrêmement dangereuses, comme le modernisme. Mais on voit qu'il y a beaucoup de monde qui ont glissé à cause du... Quand ta doctrine n'est pas correcte, tu te laisses facilement entraîner dans toutes sortes d'erreurs. Et sixièmement, ça exclut l'avant-tardise, parce que quand on comprend que c'est Dieu qui est au contrôle, puis qui est souverain, puis c'est lui qui décide tout, ben on n'est pas en train de dire « Ah ben là, c'est moi parce que j'étais intelligent, j'ai cru. » On sait que tout vient de Dieu. Alors ça exclut véritablement l'avant-tardise. Et je pense qu'on est rendu à 7. Produit l'humilité, la gratitude et la dévotion. Huitième, ça l'encourage l'utilisation de moyens. Alors, on sait que Dieu a décidé qui serait sauvé, mais aussi décidé par quels moyens. Alors, il peut nous utiliser pour un moyen par lequel, lui, il va se servir de ce moyen-là pour emmener quelqu'un à Christ. Et aussi, ça nous donne des bonnes motivations en évangélisation. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'on se découragerait facilement. Parce que des fois, on peut faire un paquet de travail, ça ne donne rien. Ou du moins, à notre perception, ça n'a donné rien. Mais il faut se souvenir que tout est sous le contrôle de Dieu. Et que ceux qui sont prédestinés à venir à lui vont venir à lui. Et qu'on n'a pas à se sentir responsable des résultats. Nous, on est responsable des moyens. Dieu nous dit de faire les choses, faisons-les, et Dieu va utiliser les moyens qu'on utilise pour amener les gens à la connaissance de Christ. Alors, connaissons bien les doctrines de la grâce souveraine de Dieu, défendons-les, enseignons-les et prêchons-les pour la gloire de Dieu.
Amen.
Amen.